Les nuits de France Culture.
Nous concevons souvent l'extase et la transe comme des notions étrangères, très loin de notre quotidien et de notre société occidentale. Pourtant, de la tarentelle médiévale à l'opéra, en passant par le flamenco, la musique occidentale travaille et produit ces altérations de notre état de conscience, à travers des transes musicales, tantôt improvisées, tantôt écrites. C'est souvent la littérature, d'ailleurs, qui en parle le mieux. Proust, Joyce et bien d'autres se sont souvent inspirés de ces phénomènes pour créer des moments proprement extatiques pour leurs personnages, dont l'état change brusquement à l'écoute d'un morceau donné. Dans ce cinquième et dernier épisode de L'Extase et la Transe, une série de Daniel Coe pour Euphonia, Philippe Solers nous accompagne dans les méandres de la musique et de la littérature occidentale. Une émission diffusée pour la première fois le 10 juin 1988.
Programme musical de France Culture. L'extase et la transe. Aujourd'hui, cinquième et dernière émission, L'extase, la transe et la musique occidentale, par Daniel Coe, avec Philippe Solers.
Transe, possession, hypnose, transgression, extase. En ce qui concerne notre univers culturel occidental, on pense immédiatement, bien sûr, à Arthur Rimbaud, à Lautréamont, à l'écriture automatique des surréalistes, à James Joyce et bien d'autres poètes et écrivains. En revanche, on peut se demander qu'en est-il de ce point de vue de notre musique et plus particulièrement de notre fond musical ancien et classique. Cette question, nous l'avons posée à Philippe Solers, l'auteur de Paradis, de Femmes, de L'écriture et l'expérience des limites et de la théorie des exceptions. Et tout d'abord, que lui évoque spontanément sur un plan musical ces mots « transe » et « extase » Philippe Solers.
D'abord, je crois qu'il faut, distinguer l'extase de la transe. Ce n'est pas du tout la même chose. Autant la transe me paraît assimilable à une commotion nerveuse, à une possession physique, à quelque chose donc qui va immédiatement renvoyer à une expérience rythmique très intense et profonde, quasiment cellulaire. Autant je mettrais l'extase dans le registre de quelque chose de beaucoup plus impalpable, qui descendrait sous forme spirituelle, diaphane, et qui tomberait en quelque sorte, mais très doucement et très profondément sur le patient, sur l'écouteur. Donc, dans les musiques de trance, je crois que ça n'est pas une spécialité, européenne ou occidentale, et nous allons voir presque forcément se découper dans ces expériences-là des incursions africaines, arabes, indiennes, voire japonaise ou asiatique. Alors là, la chose à laquelle je pense tout de suite, c'est le jazz, bien sûr, pour ce qui est de la trance. Et là, il y a un certain nombre de musiciens qui m'ont toujours extrêmement intéressé. Et on sait qu'ils agissent dans leur musique sous une forme à améliorée par un certain nombre de produits, et que donc l'histoire de la drogue et l'histoire du jazz, c'est une dialectique bien connue. Donc si vous voulez, je ne peux pas ne pas écouter Thelonious Monk, par exemple, ou Charlie Parker, ou Lester Young, etc., sans... ou Billie Holiday, avec quelque chose qui commence à être très, très envoûtant, vite, sans sentir là une expérience physique très, très, très forte et très énigmatique, souvent. Qui m'a beaucoup influencé dans ma jeunesse, c'est au flamenco, comme on le pratiquait encore en Espagne, dans le sud-ouest de la France. J'en ai vu beaucoup, jeune, et j'ai beaucoup étudié, participé même d'une certaine façon, à cette espèce de dialogue constant qu'il y a entre le battement de mains, la saccade des pieds, le grattage de guitare, le chant... rauque et tenu qui s'exprime à ce moment-là, soit par des voix masculines, soit par des voix féminines, avec cette confrontation extrêmement brutale des sexes, aussi bien dans la danse que dans la voix. Bien évident que l'autre versant, qui serait le versant extatique, alors est rempli par un nombre considérable de musique sacrée ou profane, de la musique occidentale, tout simplement. Alors à quoi je penserais là? Par exemple, il est bien évident que la répétition d'un certain nombre de motifs, par exemple comme dans le grégorien, peut jouer comme un assoupissement, une sorte de ralentissement des fonctions qui serait comparable, un petit peu toute chose égale par ailleurs là, à ce qu'on a avec la musique indienne. Il y a là quelque chose qui m'attire beaucoup, et la musique indienne là est entre la transe et l'extase, ou le grégorien en quelque chose. Il y a comme une sorte de suspension des activités physiques, une qualité absolument hypnotique de la réitération courte ou un peu longue, et là on est entre les deux.
Non.
puis alors, après, ben ça c'est l'énigme de, comment dire, de la grande musique, c'est de savoir à quel moment elle vous met dans une situation extatique. Là, je verrai une très curieuse exception à tout qui est évidemment Mozart, parce que bon, il y a des Mozart extatiques, vous savez absolument pas d'où ça vient, hein, dans les opéras. Bon. Il y a quelque chose là, tout à coup, bon, dans l'enlèvement au sérail, dans certains airs des Noces de Figaro, de Così fan tutte. Bon, et là, il y a quelque chose qui arrive à une telle complexité, un tel calme, en même temps, vous avez l'impression de planer, comme on dit. Mais alors, c'est toute l'expérience aussi sacrée, la musique sacrée, hein, sur laquelle on ne reviendra jamais assez, compte tenu du fait qu'on n'examine en général pas suffisamment, à mon goût, les rapports entre le texte, et j'allais dire l'image, mais le texte et le son. C'est-à-dire d'où ça vient, cette religiosité de Jean-Sébastien Bach ou de Handel, les comparaisons entre les deux. Handel est un musicien qui a été très méconnu. Je crois qu'il y a eu une prédominance de Bach avec l'allemand, mais Handel, si je peux dire, revient avec une force considérable. Vous prenez le Dixit Dominus, par exemple, de Handel, vous pouvez le mettre dans quelque chose qui serait la transe d'affirmation, disons. Alors là, il y a des enjeux extrêmement complexes entre le pouvoir de l'époque selon qu'on est à Rome ou à Londres. C'est vraiment l'Europe, alors en gestation.
Dixit, dixit, dominus, domino, prero, dixit, 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 dominus.
Dixit Dominus, Handel, chœur et orchestre Monteverdi, direction John Elliott Gardiner. Philippe Solers.
La musique en elle-même est un élément de la transe ou de l'extase. Je crois que quelqu'un qui est insensible à la musique risque fort de passer à côté de l'expérience en question. Il y a beaucoup de gens qui ont dit d'eux-mêmes qu'ils étaient réticents à l'égard de la musique. Freud n'aimait pas la musique, par exemple. Enfin, il était sourd à la musique. Breton n'aimait pas la musique. C'est un cas fameux. Et Dieu sait que pourtant, voilà quelqu'un qui s'est intéressé à tous les phénomènes psychiques, profonds, qui a cherché par tous les moyens à faire irruption dans ce genre d'expérience, par l'écriture automatique ou par d'autres techniques. Eh bien, la musique lui manquait. Et donc, je crois que là, c'est une limite. Je crois que Lénine aussi, on a cette anecdote, enfin, qu'il avait écouté une sonate de Chopin, je ne sais plus qui, puis il trouvait que ça le rendait trop nerveux, trop vulnérable, trop féminin. Avoir peur de franchir les limites de son propre corps et dans l'expérience musicale de danse ou d'écoute, ce qu'on peut faire sur soi-même, c'est l'expérimentation des limites, n'est-ce pas, de son propre sexe, par exemple. Il est certain que si on a une répulsion, une inhibition au devenir féminin, on va avoir maille à partir avec des états de transe ou d'extase. Si au contraire le passage au féminin, je parle aussi bien pour un homme que pour une femme, parce que c'est pas du tout évident que les femmes aillent du côté féminin, hein, soit dit entre nous. C'est une banalité que de le dire, mais c'est aussi une évidence très peu connue, hein, que les femmes ne sont pas forcément des femmes. Et alors bon, on verra, c'est bien d'ailleurs les mêmes difficultés aussi bien chez les femmes que chez les hommes de céder devant le moment extatique en toute lucidité, parce que sans quoi c'est de l'hystérie, ça n'est pas de l'extase ou de se laisser vraiment posséder par le rythme au point d'avoir l'impression de devenir quelqu'un d'autre pendant qu'on écoute, qu'on joue, parce que le musicien, le praticien de la musique peut avoir cette extraordinaire expérience qui m'intrigue beaucoup. J'aime bien parler avec les musiciens pour savoir où ils sont quand ils jouent vraiment. Et j'en ai parlé une fois dans Femmes, je raconte un concert de clavecin à Venise, et ça c'était une amie qui m'avait dit ça, claveciniste, que vraiment quand elle jouait bien, elle avait l'impression de planer au-dessus de son propre corps en train de jouer, comme si elle était très loin et comme si elle faisait là, à ce moment-là, le sans-faute, c'est-à-dire qu'elle a englobé la salle et tous les écouteurs potentiels, qu'elle les avait surmontés, qu'elle se voyait elle-même en train de jouer. Je parle du clavecin, là, parce que c'est un instrument que j'aime beaucoup et qui est aussi très, très, très curieux dans le côté extatique qu'il peut donner. Enfin, je rêve toujours à la vie de Scarlatti, à Madrid, avec sa reine espagnole.
La transe, l'extase, participent de toute une partie de notre littérature occidentale. Une littérature dont les liens avec le développement du temps la rapprochent de la musique.
Il y a chez Joyce une expérience intérieure de ce type, il y a ça chez Proust aussi, il y a ça chez tous les écrivains très importants. Bon, les extases de Proust, qu'est-ce que c'est? Bon, on ne s'est pas assez demandé, c'est pas toujours la petite Madeleine, Badati Padata, le temps retrouvé, bon, il n'y a pas de temps, la petite race de Vinteuil. Bon, il y a, si vous voulez, des clichés proustiens. Mais en réalité, les procédures extatiques de Proust sont extrêmement intéressantes à observer. Il y a toute une histoire de métaphore végétale, etc., etc., très, très passionnante. Et Joyce, je pense que c'est quelqu'un, alors lui, qui s'est donné, hein, dans ce livre inouï qu'est Finnegan's Wake, des extases sur le temps. Parce que l'extase, c'est ça, c'est une certaine abolition du temps où l'impression que vous auriez de planer au-dessus du temps. Vous sortez du temps, vous êtes dans ce, pas dans l'éternité, mais dans ce hors-temps qui implique ou pas la lucidité extrême sur le temps. C'est ça le problème. Vous êtes hors-temps, vous êtes évanoui, ou alors c'est pas ça. Vous êtes à la fois hors du temps, mais le temps vous apparaît avec une précision extrêmement fine. Et tous les détails du temps prennent un relief alors incroyable. Hein, ça peut, les mourants sont dans cet état-là, paraît-il. Moi, ils ne reviennent pas forcément pour nous le dire. Ou alors, ils oublient. Hein, des visions panoramiques très détaillées. Énormément de choses très précises dans un tout petit laps de temps qui a l'air d'être hors du temps. Alors, Joyce, c'est quelqu'un qui travaille là-dessus et qui croit y arriver en broyant des langues les unes dans les autres. Hein, et il a eu cette idée vraiment alors si folle, parce que tous les gens dont nous parlons sont des magnifiquement fous, c'est-à-dire au fond raisonnables, qu'on pouvait avoir une sorte de condensé d'histoire humaine dans un
peculiar noise, you humble creature. What is it but a blackberry growth? Or that dry or grey ass and four old codger's horns? Are you meaning Tarpy and Lyons and Gregory? I mean I'll thank all the four of them and the roar of them. That draves that stray in the mist, and old Johnny MacDougall along with them. Is that the pool-beg flasher beyant? Far, far? Or a fireboat coasting near the Kishna, or a glow I behold within a hedge, or my galley come back from the Indus? Wait till the honeying of the loon, love. Die, Eve, little Eve, die. We see that wonder in your eyes. We'll meet again, we'll part once more.
Encore un qui a inventé une liturgie, Joyce. Et quand vous l'entendez lire ces petites 20 minutes merveilleuses de Finnegan's Wake, vous remarquez un certain nombre de choses. Premièrement, qu'il peut prendre à peu près toutes les tonalités, il est à peu près dans les tessitures. S'il veut faire oh non, quand comme ça, une voix grave, il vous fait la voix grave. Et puis il parle, on fait comme ça aussi. Et puis il passe de l'un à l'autre, etc. Il parcourt très systématiquement toutes les nuances de la voix et toutes les nuances de l'affirmation, du doute, de la mélancolie, de la rigolade, etc. Voilà. Et donc il arrive à vous faire un. C'est un homme. Orchestre, tout simplement, il arrive à vous donner, avec ce qu'évoquent les mots en cascade, qui en plus se répercutent de langue en langue, Orinoco, c'est l'Orénoque, mais c'est pas seulement l'Orénoque, c'est autre chose qu'un fleuve, c'est un fleuve en mouvement Scamander, hein, le Scamander. Et alors là, vous avez à la fois Homère et les méandres, et jusqu'à ce night, à la fin, où le T se détale tout doux, le night. Ah, voilà. Et il sait ce que c'est qu'un silence, c'est qu'une pause. Il sait ce que c'est que poser la voix. C'est absolument merveilleux. Et là, il n'y a aucune difficulté ensuite à reprendre Finnegan's Wake, à l'écouter comme Joyce a dit qu'il fallait le lire en l'écoutant. Donc c'est très simple. C'est très simple, mais personne ne s'y fait. Personne n'accepte d'écouter la messe de Joyce. Ça, c'en est une.
I told you, every telling has a tailing, and that's the he and the she of it. Look, look, the dusk is growing. My branches lofty are taking root, and my cold chair's gone ashly. Feel-o, feel-o, what age is that? it soon is late. 'Tis endless now since I e'er one last saw Waterhouse's clock. They took it asunder, I heard them sigh. When will they reassemble it? Oh, my back, my back, my back! I'd want to go to Aixley Pains. Ping pang, there's the bell for sexolitis. At Concepta they send the spray. Pang. Ring out the clothes, ring in the dew. God of Ari, vert the showers and grant thy grace. Aman. Will we spread them here now? Aye, we will. Spread on your bank, and I'll spread mine on mine. Flap. It's what I'm doing, spread. It's churning shill, their went is rising. I lay a few stones on the hostel sheets, a man and his bride embrace between them, else I'd have folded and sprinkled them only. And I'll tie my butcher's apron here. It's sooty yet, the strollers will pass it by.
Extase, si vous dites trans, vous aurez tout de suite comme si c'était les ténèbres, dans une sorte de nuage de soufre, on serait dans un souterrain et on aurait des extases mortifères. Vous savez, comme tout ça est négativé très vite. Les gens ont tellement peur de ce qui dépasse leurs limites que tout ça est évoqué en général de façon un peu diabolique. Hein. Diabolus. Chez Joyce, vous avez cet extraordinaire. Tremblement de joie, oui, qui était tellement saisissant et qui s'est obstiné à verbaliser, malgré les ennuis incroyables qu'il avait dans sa vie privée, les ruses auxquelles il était obligé. Et donc, oui, c'est l'écrivain qui vous donne un sentiment de certitude tout à fait vocal.
La voix dans la littérature occidentale, la voix dans la musique occidentale, la musique en tant que rituel, l'opéra. Dans un des chapitres de son livre « La musique et la transe », Gilbert Rouget imagine qu'un jeune ethnomusicologue africain se rend à Paris, assiste pour la première fois à un opéra et écrit une lettre à un de ses compatriotes resté au pays.
Mon cher Assogba, quelle aventure! J'ai été hier à l'opéra. J'ai cru devenir fou. Personne ne m'avait prévenu, je ne m'y attendais donc pas. Quelle n'a pas été ma surprise de me trouver en pleine cérémonie de possession. Tu te serais cru à Porto Novo, place des Gays, pour la fête annuelle de Sakpata, ou à Alada, pour les cérémonies d'Adjaouto, ou encore à Abomey, pour les grandes coutumes. Bien sûr, c'est l'évidence, ce n'est pas la même chose. Bien sûr, les différences sont immenses. N'empêche, je tiens que fondamentalement, une représentation à l'opéra et une fête de vaudoune au Bénin sont à beaucoup d'égards tout à fait comparables. C'est ce que je voudrais t'exposer, toutes affaires cessantes, car personne ici ne semble le soupçonner. Parlons d'abord psychologie. Tu conviendras que vu sous ce rapport l'essentiel dans la possession, c'est l'identification avec un autre, c'est l'envahissement du champ de la conscience par un autre personnage que celui qu'on est d'habitude, de manière qu'on n'est plus soi-même, mais l'autre, et qu'on se comporte en tout point comme lui. C'est précisément ce qui se passe sur la scène pendant un opéra. Hier soir, dans Electra, puisque c'est ce que je suis allée entendre, Birgit Nilsson n'était plus Birgit Nilsson, mais Electra. Cette intensité, précisément, est-ce la transe? Il faudrait pouvoir interroger là-dessus les chanteurs ou les chanteuses eux-mêmes. Mais saurait-il ou pourrait-il répondre? Revenus à eux-mêmes, le rideau baissé et la représentation finie, se souviennent-ils de ce qu'ils ont vécu ou bien sont-ils en proie à cette amnésie qui caractérise chez nous les vaudounisants? C'est cette fascination qu'exerce la possession sur l'esprit des hommes qui m'intrigue. Ingénument, je croyais qu'elle ne s'observait guère que chez les sociétés, disons archaïques, comme la nôtre. Cette expérience de l'opéra me montre qu'il n'en est rien. À quoi tient que ce trait culturel doive apparemment être vu comme un universel des sociétés humaines, quel que soit le stade de leur développement? À quel besoin profond correspond-il? Quelle fonction fondamentale assure-t-il? La catharsis dont parlait Aristote? C'est ce que j'aurais eu tendance à croire en voyant, à ma grande surprise, quel débordement d'enthousiasme ont déferlé sur la salle aussitôt la dernière note chantée. On ne verrait jamais ça chez nous, me disais-je. Ces applaudissements qui n'en finissaient plus, ces hurlements m'ont beaucoup intrigué. Manifestation de délire collectif.
Thank you.
Birgit Nilsson, le monologue d'Electra dans le premier acte de l'opéra de Richard Strauss. Orchestre philharmonique de Vienne, direction Sir George Solti. Le chant d'opéra, transe ou extase?
Je pense qu'un chanteur ou une chanteuse est toujours obligé de faire de la technique d'abord. Hein. Nous avons l'impression que tout ça surgit comme divinement de cette gorge, de cette poitrine. Voilà, c'est leur rôle de nous donner cette impression. Paradoxe sur le comédien, comme disait le très 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 lucide Diderot, qui d'ailleurs est plus en transe qu'on ne croit. Oui, je crois que ça, c'est tout le problème de savoir comment produire ou comment ressentir quelque chose. Hein. Vous pouvez produire de l'extase, produire de la transe, mais le fait de savoir la produire, vous êtes obligé d'être d'une grande froideur. Hein. Quand vous regardez Glenn Gould, par exemple, bon, c'est du piano, mais on a l'impression que tout son effort est tendu pour se mettre dans un état d'hypnose et de lévitation avec son piano. Alors, on sent qu'il a pris toutes ses précautions, puis il peut faire enregistrer aussi. Bon, mais tout ça, en même temps, demande une minutie dans les tout petits détails. Et puis vous avez l'impression qu'il est là, en transe, en train de... Non, mais pas du tout. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que les gens se racontent, je crois, beaucoup de choses. Et c'est très bon pour eux. Ils se racontent beaucoup de choses sur la transgression. Mais je crois que la transgression vient de l'observation minutieuse de toutes les lois à la fois. Et que quand il y a la transgression qui apparaît, ça veut dire que malgré cette observation minutieuse, ou au-delà d'elle, là où tout le monde s'arrêterait, c'est ça qui distingue un grand interprète d'un autre interprète. Il faut comparer les versions. Voilà. Comparer deux clavecins, deux pianos, deux voix, deux chefs d'orchestre. Il y a des émissions pour ça. Mais il faut le faire pour soi-même. Il faut comparer deux écrivains. Bon, là, c'est la chose en plus. Alors, d'où vient-elle? Ça, on ne le saura jamais. Thank you.
Glenn Gould, prélude et fugue numéro 6, du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Transe et extase, Philippe Solers.
Je crois que tout ça se ramène au théorème suivant. Qui est capable de jouir quand il veut ? Il suffit de poser cette question pour voir que la réponse ne va pas de soi. Quand je dis jouir, j'entends quelque chose qui ne serait pas de l'ordre simplement masturbatoire, qui est la petite monnaie de la jouissance. Vous pouvez voir ce qui est de l'ordre masturbatoire dans la vie courante. Il faut analyser ça par le sexe, je crois, parce que c'est le grand secret de Polichinelle, toutes ces histoires de chaman ou de dard. Enfin, s'il faut revenir au cœur de la chose, et le cœur, c'est ça. C'est pas mal d'avoir un bon auto-érotisme, par exemple, mais encore faut-il le connaître. C'est déjà quelque chose de s'apercevoir qu'on jouit plus ou moins. Mais c'est pas donné à tout le monde, ça se travaille. Ça. Les gens qui savent pas très bien s'ils ont joui plus ou moins. Et s'ils s'en rendent compte, quelque chose leur vient comme une connaissance. Si le sexe servait à la connaissance, ça se saurait. Il y aurait des tas de gens savants, hein, puisque tout le monde y touche à cette affaire, paraît-il. Moi, j'en doute. Ça produit pas tellement de connaissances. Ce qui veut dire que tout ça se fait un peu au petit bonheur, dans un état demi-somnambulique, hein, où tout alors peut se passer comme imagination et comme construction délirante, et comme culpabilité surtout. Alors, voilà, qui est capable de jouir à volonté, c'est-à-dire de décider sur cette question-là, et éventuellement d'éduquer l'autre à décider aussi de son côté. Vous savez, ça c'est un thème absolument classique de la littérature française. J'allais dire, c'est ce que Sade a passé son temps, alors là, très 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 dévoué, à nous dire, essayer de nous dire. Enfin, c'est-à-dire, variation, canon, fugue, répétition, jusqu'où pouvez-vous aller, qu'est-ce que vous pouvez supporter, qu'est-ce que vous ne pouvez pas supporter. Que je n'ai pas dit que Sade était en train de découper des gens en petits morceaux dans son boudoir. J'ai dit que la représentation quasiment liturgique, c'est pareil, Sade, ce sont de grandes messes avec des canons, des fugues. C'est de la technique de méditation. Il faut le savoir. Sade, c'est pas du tout ce qu'on croit. Et là aussi, l'humour est très important. Car l'humour joue comme critique interne au système. La transe ou l'extase que vous obtiendriez comme ci ou comme ça, facilement, sans humour, je suis prêt à parier qu'elle n'est pas de première qualité. Il faut prendre les textes de ça, la philosophie dans le boudoir, Juliette, les 120 journées de Sodome, les lire et envoyer les opéras de Mozart, les récitatifs, Così fan tutte, etc. Et là, vous avez l'envers et l'endroit d'une seule et même chose. C'est-à-dire que c'est très troublant, parce que vous êtes à ce moment-là dans l'incapacité de faire aller Mozart dans l'ineffable, et vous êtes aussi dans l'incapacité de limiter Sade à sa vision obsessionnelle ou perverse. Et donc vous êtes coincé des deux côtés, et vous découvrez quelque chose qui est parfaitement lumineux, à mon avis. Mais si vous le découvrez dans un rire, alors au troisième degré, et tout à fait extatique, à mon avis. Et je propose ce qu'il est toujours facile de faire à la radio, ou ailleurs, de mettre de temps en temps un texte. Voulez-vous le faire? Et faites-le. Mettez un texte de Sade et mettez derrière les récitatifs de Cosi. Vous allez voir, c'est parfait.
Madame de Saint-Ange. Attends, Eugénie. Je vais maintenant t'apprendre une nouvelle manière de plonger une femme dans la plus extrême volupté. Écarte bien tes cuisses. Dolmancy, vous voyez que de la façon dont je la place, son cul vous reste. Gamahuchez-le-lui pendant que son con va l'être par ma langue. Et faisons la pamille entre nous ainsi 3 ou 4 fois de suite, si se peut. Ta motte est charmante, Eugénie. Que j'aime à baiser ce petit poil follé. Ton clitoris que je vois mieux maintenant est peu formé, mais bien sensible. Comme tu frétilles. Laisse-moi t'écarter. Ah, tu es bien sûrement vierge. Dis-moi l'effet que tu vas éprouver dès que nos deux langues vont s'introduire à la fois dans tes deux ouvertures. On exécute. Eugénie. Ah, ma chère, c'est délicieux. C'est une sensation impossible à peindre. Il me serait bien difficile de dire laquelle de vos deux langues me plonge mieux dans le délire. Dolmancy. Par l'attitude où je me place, mon vite est très près de vos mains, madame. Daignez-le branler, je vous prie, pendant que je suce ce cul divin. Enfoncez davantage votre langue, madame. Ne vous en tenez pas à lui sucer le clitoris. Faites pénétrer cette langue voluptueuse jusque dans la matrice. C'est la meilleure façon de hâter l'éjaculation de son foutre. Eugénie se raidissant. Ah, je n'en peux plus. Je me meurs. Ne m'abandonnez pas, mes amis. Je suis prête à m'évanouir. Elle décharge au milieu de ses deux instituteurs.
Vien armarvi, figlie mie, di costanza.
Oh, te! Qual mal vi venuto mai? Non lo sapevo. Forse morte il mio me, è morto il mio.
Morti? Non son, ma poco men che morti.
Feriti?
No.
Malati?
Neppure.
Che cosa dunque?
Al marzial campo, or d'in reggio li chiama.
Oh, in me, che sento, e partirà.
Sul fatto.
E non c'è modo d'impedirlo.
Non c'è.
Ni un solo addio.
L'infelici non hanno coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti.
Dove sono?
Amici, entrate. Sento Dio che questo piede e respiro nel chirle abbatte il mio labbro palpitante non può detto pronunziar nei momenti più terribili sua fiatura e pareggia
oh, che abbiamo un momento
amico, santo amico, finem lauda, finem lauda.
Masculine ou féminine, est-ce qu'elle peut être en elle-même porteuse de transe, porteuse d'extase ?
Ça dépend là encore des interprètes, mais je dirais qu'un très très grand interprète vous laisse froid, justement. Vous êtes peut-être que alors c'est le comble de la transe ou de l'extase, n'est-ce pas ? C'est de rester très froid, stupéfait devant ce qui est en train de se passer. Dès que vous êtes remué par la voix, c'est pas bon signe. Vous écoutez ça, mais c'est comme si vous ne sentiez rien. Ça vous traverse, et puis c'est tout. Je crois que là, peut-être que c'est la caractéristique la plus profonde de la transe ou de l'extase, c'est que c'est comme s'il ne se passait rien.
L'extase et la transe. Aujourd'hui, l'extase, la transe et la musique occidentale avec Philippe Solers. Euphonia, Fabienne Zimmermann, Jean Prisot, Daniel Coe, mise en page sonore Annie Flavel.
C'était le cinquième et dernier épisode de L'extase et la transe, une série de Daniel Coe pour Euphonia. Une émission diffusée pour la première fois le 10 juin 1988.